Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de Deux Radio, Deux Radio, la radio de Haute-Garonne. Et bien sûr avec toute l'équipe du journal d'information locale et culturelle, on est ravis de vous retrouver comme chaque jour du lundi au vendredi pour notre journal en direct à midi. Voilà, on rappellera juste avant d'annoncer le programme du journal et du magazine thématique à suivre. Voilà, comment nous suivre, ça c'est important, des prérogatives de l'ARCOM, la bande FM 91.3 depuis le 10 juillet 1997. On peut nous suivre également via notre site de radio.fr qui parmi les services rendus, façon de parler, vous permet de venir entendre, voire télécharger toutes nos émissions. C'est un service gratuit, c'est très intuitif, 2 ou 3 clics, vous pouvez venir entendre ou télécharger, vous avez bien compris, toutes nos émissions. Et on n'oubliera pas, si vous êtes en métropole bordelaise, le DAB ou DAB+, vous prononcez cet acronyme anglais comme vous voulez, c'est la radio numérique terrestre et c'est également un moyen de nous suivre. Allez, tout de suite le programme du journal et du magazine culturel. Sur la partie journal, c'est Yon qui va nous présenter quelques brefs d'infos pour ouvrir ce journal. Autour de moi, un beau plateau. Voilà, on va parler de la journée de la laïcité qui va se dérouler le 10 décembre. Et autour de moi, des membres de l'association Thésée, Ludovic Armouet, Dominique Daillot, Eric Chori, j'essaye pour l'accent, Capitaine Slam. Voilà, on va parler de cette journée. L'association a obtenu également le prix de l'initiative laïque. Le lundi 25 novembre, on a eu le plaisir également de partager un beau moment avec l'association Thésée. C'était dans le cadre de la quinzaine de l'égalité et de la diversité. Voilà, on va avoir plein de choses à dire, mais autour de moi, un beau plateau de gens militants très actifs. Pour la partie musicale, Émilie Loiseau sera en concert ce soir, ce jeudi 5 décembre au Rocher de Palmer. On ne va pas manquer au plaisir d'écouter son dernier titre, La Route de Vénus. Et dans le magazine culturel qui va suivre à 12h30, on aura le plaisir de recevoir Claire et Laura. Elles sont toutes deux autrices et comédiennes. Elles sont en ce moment en résidence à l'Oscillo Théâtroscope, nos voisins et amis du Théâtre Alizé, ici domaine du Lauré à Senon. Et elles auront le spectacle de demain, le fameux spectacle de sortie de résidence, Recherche autour de Lilith. Ce sera demain soir, vendredi, à 20h45. Et on en parlera en seconde partie de ce journal sur le volet culturel. Voilà, c'était le sommaire du journal et de ce magazine culturel. Et pour ouvrir ce journal, ce jeudi 5 décembre, c'est donc Yon qui va nous présenter quelques brèves d'infos. Bonjour Yon.
Bonjour Joël, bonjour à toutes et à tous. Et pour commencer ces brèves d'infos, on va commencer par une célébration. En ce 5 décembre, nous célébrons la Journée mondiale du bénévolat, une occasion précieuse pour mettre en lumière l'engagement des bénévoles qui œuvrent au quotidien. Leur dévouement contribue à renforcer le lien social, à soutenir les plus vulnérables et à dynamiser la vie locale. On rappelle que sur le site du gouvernement Diagoriente, les bénévoles peuvent être aidés à valoriser leurs expériences et leurs compétences acquises lors de leur mission, facilitant ainsi la valorisation de leur parcours, de formation ou de leur VAE. Maintenant, petit moment budget, avec le budget participatif de ce nom. Nous rappelons que vous avez jusqu'au 31 décembre pour proposer vos idées. Un total de 100 000 euros sera mis à disposition pour les différents projets et les différents projets seront étudiés jusqu'en mars et votés par les Senonais en avril-mai. Le résultat sera donné en juin 2025. Pour plus d'informations et sur les conditions, rendez-vous sur le site jeparticipe.senon.fr. L'enseigne APEF, spécialisée dans les services à la personne avec plus de 150 agences en France, lance son opération « Jeudi, je recrute ». Chaque jeudi de décembre, les agences ouvrent leurs portes aux candidats à la recherche d'un métier porteur de sens, auxiliaire de vie, assistant ménager, garde d'enfants ou encore jardinier. À Bordeaux, rive droite, 10 postes sont à pourvoir. Pas besoin de CV pour postuler, il suffit de venir rencontrer l'équipe pour découvrir les opportunités disponibles. Ensuite, on retrouve l'association Un Rayon de Solidarité, qui réalise des actions de soutien dans toute la France pour lutter contre l'exclusion. Rendez-vous tous les samedis pour les 10-17 ans dans la salle Nelson Mandela de Senon. Les jeunes pourront s'essayer à la robotique, au développement de compétences électroniques et en codage. Une participation annuelle est demandée. Infos et inscriptions à l'adresse robotkidssenon@gmail.com. Et enfin, côté sport, toujours à Senon, l'heure est à l'accessibilité du futsal pour les jeunes senonaises. Le service jeunesse, le centre social et culturel La Colline et La Jag ont ouvert un créneau. Tous les mardis de 17h30 à 19h30 au gymnase Lalanne, hors période scolaire, les jeunes filles seront encadrées par des animatrices et des animateurs. C'était tout pour les brèves d'infos de ce jeudi 5 décembre.
Allez, merci Yon pour ces quelques brèves d'infos et concernant le budget participatif dont vous avez parlé à l'instant. Yon, Anne-Cécile Godard, chargée de démocratie locale et participative à la ville de Senon, sera notre invitée demain pour nous rappeler bien sûr les modalités de ce budget participatif. C'est une belle initiative. Allez, on est en direct. Ravi de vous retrouver, Ludovic Armouette. Bonjour, bienvenue à Oudo Radio.
Bonjour à vous.
Voilà, et vous n'êtes pas tout seul. Dominique Daillot, Eric Chori. Ou Capitaine Slam, je ne sais plus. En tout cas, bonjour et bienvenue à tous les trois.
Bonjour, merci.
Voilà, alors c'est vrai qu'on échange un petit peu en amont. Il y a de l'actualité avec l'association Thésée. Donc j'espère qu'on ne va pas pouvoir tout dire, mais dire beaucoup de choses. Juste peut-être revenir pour commencer. On va faire un focus, bien sûr, c'est cette journée de mardi. Dans le cadre de la quinzaine de l'égalité à la diversité, je crois que vous étiez tous présents et d'autres membres de l'association Thésée. Et on a vécu encore un grand moment, Ludo, parce qu'on a eu des témoignages, un magnifique événement et puis quelque chose de concret, hein, c'est ce que je tiens dans les mains, Exil et elle, tranche de vie. En quelques mots, ça c'est une des initiatives, nombreuses initiatives, et qui est concrétisée, qui fait sens. Et je crois que là, Captain Slam pourra intervenir aussi.
Oui,
donc sur cette action, Ludo.
Oui, effectivement, sur cette action.
Par contre, Fave.
Sur cette action, nous avons décidé de mettre en place le récit de parcours migratoire. Donc l'action s'appelle Exil et elle. Et donc le but est de recevoir, d'accueillir les témoignages de gens qui ont connu l'exil et de les transformer sous forme d'écrits. Et leurs parcours sont racontés et écrits par des policiers écrivains. Et le but, bien entendu, est de démontrer qu'on a des parcours qui sont beaux, même si ces personnes ont connu la galère du départ, la galère du parcours avant d'arriver sur notre territoire. Et lorsqu'ils arrivent sur notre territoire, le parcours continue à être un peu galère. Et enfin, on arrive à une finalité qui est belle, une belle fin, comme un peu les contes, puisque ce sont des gens qui trouvent leur place dans notre société. Et le but était de démontrer que notre République le permet. Elle permet à ceux qui en ont envie de trouver leur place et de s'épanouir dans notre société, dans notre République.
Voilà, puis c'est vrai, ça a été un moment empreint d'émotion, hein, ce lundi, mais c'était qu'une partie, bien sûr, de toutes les actions que vous avez pu mener. Il y a eu des témoignages poignants de membres de l'association, bien sûr, mais surtout les filleuls, hein. Je ne sais pas si on peut les présenter. Je crois que c'est comme cela que vous voulez.
Oui.
Avec chacun leur histoire singulière. Alors, on aura le plaisir de recevoir Martin Martinez. Hein. On va se caler. Vous, Dominique, justement, sur cette action spécifique. Alors là, on va parler d'ici quelques minutes de la journée laïcité, mais c'est important de dire quelques mots sur cette belle action. Mais en quelques mots...
Oui, mais confirmer que c'était très émouvant. D'abord, la rencontre avec ces exilés. Déjà c'était un climat de confiance qui s'est assez vite instauré pour pouvoir quand même raconter leur vie. C'est assez intrusif au départ,
assez intimiste, hein, ça touche, voilà,
voilà. Et très vite ils se sont livrés et on a essayé de retranscrire au mieux leurs sentiments, leur parcours. Et effectivement, comme vous l'avez rappelé, c'était tous ces témoignages qui étaient vraiment émouvant et qui, je pense, sont après amène, je pense, une issue positive et c'est ça qui compte, essayer de continuer à les accompagner dans ce parcours de réussite.
Alors, Eric, vous, Capitaine Slam, je crois que vous êtes intervenu, hein, aussi sur cet événement. Voilà, oui. Donc on va parler laïcité, puis j'ai une belle question à vous poser, mais okay. Je vais le poser tout à l'heure. Mais là, par rapport à cette action spécifique, alors, je ne sais pas si je m'adresse à Eric ou Capitaine Slam, c'est la même personne, vous allez me dire.
Tout, hein. En fait, oui, c'est assez schizophrénique.
Il y a plusieurs personnes
en mode. En fait, par rapport à cette action sur Exil et elle, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on y a travaillé. Certains ont rencontré des gens donc, qui avaient lâché leur pays pour X raisons. Et moi, je suis venu faire un texte sur l'exil qui me tient particulièrement à cœur. Sans parler du Pays Basque pendant des heures, mon père est parti pendant des années. Je sais ce que c'est que lâcher son pays, y revenir et parfois y trouver de grandes difficultés. Donc c'était un grand plaisir d'écrire ce texte, avec en conclusion quelque part que c'est des grandes difficultés en arrivant, mais c'est aussi des possibilités en arrivant, avec les exemples qu'on a vus, des gens qui sont médecins maintenant, qui occupent des postes assez importants et intéressants, avec de la volonté et puis des encouragements autour, et ne pas avoir peur de la différence en fait, et d'en faire une qualité pour nous tous, quoi. Voilà, donc c'était un plaisir.
Là, vous avez un texte sous les yeux, c'est lié à cet événement ou à la laïcité, non ?
Non, c'est quelque chose qui me tient également à cœur sur la laïcité.
Bon, mais on y arrive. Voilà, mais c'était important d'en parler, même si quand on a organisé ce rendez-vous, c'est par rapport à cette journée de mardi. Ben, c'est vrai que, Ludovic, déjà, il faut remettre dans le contexte. Hein, le 9 décembre, là, ça va se dérouler le 10, mais c'est lié à cette journée du 9 décembre. Voilà, alors déjà, il y a deux dates qui résonnent, 24 août 2021 et surtout 9 décembre 1905. Donc, sans refaire tout le contexte historique, c'est bien de rappeler que c'est une loi quand même 1905-2024 qui a quelques années. Hein. Mais c'est bien d'en parler, et puis on va le voir au travers de l'événement au Rocher, d'en parler avec des jeunes, des collégiens, d'avoir des moments avec nos amis du Tatralisé, etc. Mais là, quand on évoque cette journée nationale de laïcité, puis 1905 et autres...
Oui, effectivement, peut-être rappeler que cette loi du 9 décembre 1905, qui n'est pas la loi de la laïcité communément appelée, mais qui est la loi de séparation des églises et de l'État, qui permet la laïcité. Donc cette loi fait suite à une histoire tumultueuse de notre République et de notre pays, puisque l'histoire commence à peu près avec Clovis qui se fait donc baptiser à Reims, hein, où on voit bien que là c'est le pouvoir spirituel qui prend la main sur le pouvoir politique, et on verra plus tard avec le fil de l'histoire que on va inverser les rôles. Ce sera donc le pouvoir politique qui va poser la calotte sur la tête d'évêque, et on voit bien qu'en fait je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et à un moment donc notre République, la Troisième République qui se met en place, a vraiment une ambition, c'est de passer à cette séparation vraiment marquée entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, et qui donne donc lieu à cette loi de 1905 dont le rapporteur Aristide Briand a souhaité faire une loi d'apaisement pour arrêter la guerre des deux Frances, donc la guerre entre la partie ecclésiastique et la partie républicaine.
Alors, 24 août 2021, la journée est institutionnalisée au sein de la fonction publique. Là également, c'est important.
Oui, il fallait marquer effectivement une volonté.
C'est récent, même temps, 2021, trois ans.
C'est tout à fait récent, mais ça fait suite à notamment des événements qui nous ont bien marqués, les attentats de 2015. C'est une loi qui est bien plus large. Hein. Elle ne se résume pas à cette journée de la laïcité.
Bien sûr.
Pour autant, je crois qu'il était important de marquer le coup. Après, je veux rappeler que la laïcité, c'est pas une journée. La laïcité, c'est tous les jours.
On est d'accord, mais là, c'est valable pour toutes les journées, c'est ce qu'on dit fréquemment. Voilà. Alors, vous participez avec l'association Thésée, et bien sûr, puis vous avez d'autres fonctions, Ludovic, mais là, on va parler surtout en tant que Thésée. Donc, encore un bel événement qui va se dérouler ce mardi 10 décembre au Rocher de Palmer. Alors, on le rappelle, c'est pas public, mais cette journée fait sens. Et chaque année, bon, on a des fils rouges, hein, par exemple, des scénettes avec il y a eu Loubna l'an dernier avec la Cité Compagnie, là nos amis du Tatralisé, ça permet au travers de scènes de théâtre d'avoir des scènes de la vie de tous les jours, et là cette année beaucoup de collégiens.
Oui,
donc alors ça c'est bien de donner des infos, il y aura des ateliers débats, il y a tout un riche programme.
Oui. Alors cette année, effectivement, la préfecture qui organise cet événement a souhaité mettre le focus sur notre jeunesse, donc à travers les collèges. Donc c'est les classes de troisième. On aura trois classes de troisième qui ont été donc sélectionnées pour jouer les scénettes, jouer les moments de danse. Et on a donc des classes qui ont été invitées en tant que spectatrices. Et le but est de créer ensuite l'échange à partir des pièces de théâtre qu'on aura mises en place. Donc nous avons trois associations qui travaillent effectivement avec la préfecture sur ce programme et avec l'éducation nationale, bien sûr. Donc on a le théâtralisé, on a l'association Alif et l'association Thésée.
Voilà, alors il y a trois classes. Alors évidemment, notre ligne éditoriale, c'est la rive droite, mais on ne s'intéresse pas, bien évidemment, qu'à la rive droite. Donc c'est tout un travail qui a déjà été mené en amont. Et là, les jeunes, toute une journée, hein, il y a de temps.
Exactement.
Donc il y aura, vous avez cité les scénettes pédagogiques, il va y avoir la scénographie, des quiz. Ça, c'est souvent, c'est un moyen de manière ludique de voir le taux d'information que l'on a. Et puis on a cité quelques partenaires, mais il va y avoir également du bon monde et des ateliers débats avec les collégiens. Ils vont avoir des temps également où, sans jugement, ils pourront voir qu'est-ce que représente pour eux la laïcité.
Exactement.
S'exprimer avec leur mot, ça c'est important. Hein. C'est-à-dire, il y a l'aspect pour le public, j'allais dire, et puis ce travail, hein, ils vont être...
Le but est de faire des actions pédagogiques, mais en même temps ludiques. Je crois que toute l'année à l'école, ils ont une formation, un enseignement qui est assez vertical. Là, nous souhaitons donc passer à quelque chose de plus interactif et à partir des scénettes qui revendiquent la vie du quotidien. Et bien entendu, la partie Thésée est importante également parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire d'où nous venons. Et ce jour-là, donc, puisque c'est la loi de 1905, nous allons reproduire les discours qui ont permis à l'Assemblée nationale d'aller vers cette proclamation de la loi de 1905.
Voilà, donc déclamation de texte autour de cette loi.
Tout à fait.
Ça s'est opéré, bien sûr, des temps de rencontres, d'échanges avec les collégiens. C'est pas juste déclamer des textes, c'est en comprendre le sens, se replonger peut-être avoir fait un point politique de cette période. Ça a dû être enrichissant, y compris pour vous, l'équipe de Thésée,
et puis exactement.
D'avoir cet échange avec les jeunes qui ont leur vision. Ils sont
exactement. Alors j'en profite pour remercier tous ces collégiens, ceux que nous avons suivis à Thésée, mais également les collégiens qui ont été accompagnés par les autres associations. Je crois que nous avons appris autant que nous avons voulu leur apporter. Et c'est ça qui est important dans l'échange et dans la rencontre, c'est que ça ne vient pas que d'un côté. Nous avons aussi à apprendre, et notamment de nos jeunes qui en savent autant que nous, mais d'une autre manière.
Ils ont leur regard également. Ils n'ont peut-être pas, bien sûr, toute cette expérience, peut-être pas encore étudié au lycée et puis dans les classes supérieures cette loi et puis tout ce que cela engendre, le contexte politique, mais de riches échanges, à vous confirmer. Hein,
oui, de belles rencontres, de beaux moments. Et bien entendu,
il
fallait partir de l'histoire, et c'est
bien
ça
sûr.
Qui est intéressant.
Les faits sont sacrés.
En fait, une fois que l'histoire est posée, est comprise, et ensuite je pense qu'on peut dérouler de manière plus fluide sur ce que nous voulons passer comme message.
Alors Eric, là vous avez un texte donc sur la laïcité, et là il y a une question qui me taraude. Alors pourquoi écrivez-vous sur la laïcité ?
Alors, on va faire ça assez rapidement avant de vous proposer ce texte.
Bien sûr.
Je travaille depuis fort longtemps dans la fonction publique territoriale. On va dire que je suis sensibilisé aux valeurs de la République.
Les valeurs républicaines.
Voilà. Une belle rencontre avec l'association de Thésée, les actions qui sont menées auprès des jeunes et auprès des moins jeunes, à tout niveau, et on va dire dans le domaine culturel également. Et je vais oser une comparaison à ma façon. Si j'ai bien compris, nous sommes aujourd'hui à la radio O2.
O2 Radio, tout à fait.
C'est ça.
Je confirme.
Et O2, et si je me rappelle de mes cours de chimie, c'est le symbole de l'oxygène, et qui est indispensable à la vie de chacun. Pour ce qui concerne la laïcité, j'ai compris que c'était un outil indissociable de la République, et indissociable et qui peut nous permettre aussi de respirer tous à plein poumon et ensemble, bien au-delà de nos différences. Voilà. Donc voilà les raisons pour lesquelles je suis vraiment sensibilisé à ce sujet-là. Et donc j'ai écrit une version à ma façon. Je précise que je travaille dans la fonction publique parce que cette version est tout à fait personnelle et discutable, et s'appelle « La liberté ».
Voilà, je ne sais plus combien de... Là, ça représente combien de minutes, la lecture, parce que je vous ai dit, ça serait sympa de pouvoir la lire en direct, même si on a quand même un temps dédié.
Alors, avant que vous... Dans trois quarts d'heure, à peu près, non?
Bon, c'est bon.
Quatre minutes.
Prévenez le cuistot qu'on sera en retard.
Non, il y en a pour quatre minutes maxi.
Non, mais on va déborder un petit peu, parce que je trouvais c'était intéressant. Là. Mais on vous écoute juste l'oxygène. Ouais. C'est sûr qu'on espère qu'on en a au de radio. Mais en fait, il y a plus autour des Hauts-de-Garonne. Mais c'était bien amené, parce que même notre logo, il est trompeur avec ce symbole chimique. Mais on en est ravis. L'oxygène, c'est la vie.
Et au-delà de nos différences aussi. Hein.
Voilà, bravo.
Ça, c'est très important. Voilà.
Mais on vous écoute.
On y va. Donc le slam que j'ai écrit il y a un an ou deux et qui s'appelle La Liberté. Donc je suis déjà dit, je suis Eric et mon prénom est aussi Chori quand j'écris. Tel que vous me voyez pas et de la tête aux pieds, je suis un enfant de la République et du pays basque dont je me revendique. Pas un pet suisse, vous avez tous compris, pourtant je me dois d'être neutre au travail, c'est ainsi. Car je suis fonctionnaire de notre beau pays. Est-ce que je crois au paradis? C'est perso, je le dirai pas ici. Une belle journée laïcité, une occasion de partager, de corriger, de débriefer certaines de nos difficultés et de tous avancer pour un message à propager, les valeurs de la République, souvent chahutées, liberté, égalité, fraternité, ont besoin de chacun de nous pour préserver cet idéal et ce, par-dessus tout. Tous différents et unis autour de ce beau projet, un service public, une société, espace de liberté et de mixité, espace de droit bien sûr, mais aussi de devoir. Et garder privées nos opinions au sujet de la religion dans le cadre de nos fonctions. Aucun signe, aucun vêtement ne traduisent nos croyances. Nos comportements sont fondés sur la neutralité, une noble exigence pour maintenir haut et fort les valeurs de la France. Neutralité égale égalité, laïcité égale liberté, pour peut-être enfin un jour arriver à fraterniser. Sait-on jamais. Ce cadre en tout cas le permet, il convient de le protéger. Des gens de tous les horizons, beaucoup de communication, de formation, chacun avec ses convictions. De bonnes prises de position sont des pas vers la cohésion. Autour du mot laïcité, mot souvent décrié et parfois détourné, une belle équipe avec des lois et des fois, au milieu de tout ça, des petits tracas avec la foi, des gros tracas des fois, et une version détournée parfois qui vient s'inviter au débat. La vérité, c'est le respect. Une fois bien positionné, le pari peut être gagné. Tous autour de la laïcité, garante de mixité, liberté. Des fois, ce chantier est un peu compliqué. Et certains mots en hic peuvent faire vaciller nos boutiques. Philosophique, politique, critique, épidermique, juridique, dramatique, comique, tactique, stop. Stop, stop, stop. Il faut rester basique. Deux ou trois mots pour solution. Pas forcément magique, mais stratégique et logique. République, laïque, obligatoirement pédagogique. Et république peut alors rimer avec tout un tas de mots en « et » dont le mot laïcité et celui-ci se décliner en égalité, solidarité, difficulté, fraternité, compliqué, communiquer, liberté, recommuniquer, partager, s'interroger, avancer, stopper et neutralité. Ça peut fatiguer, mais toujours recommencer et ne jamais renoncer. S'adapter, se former, s'épauler pour gagner le plus beau de tous les trophées, le beau projet de société, celui du respect des valeurs partagées. Rare mot comme laïcité a déclenché autant d'adversité, de doutes et de complexité. Je ne suis pas un spécialiste, mais je connais le poids de ce qui est beaucoup critiqué. Souvent, quand on critique fort, c'est que c'est bon. C'est con, mais c'est comme ça, bon. Mais ce chemin est sans aucun doute le bon. La religion, sujet sensible, peut parfois faire rater la cible. Elle peut permettre d'y arriver, mais dans la sphère privée et neutralité rimée, alors avec succès. Guide, charte et formation, autant de pas vers la cohésion. Sans faire ici une conférence, un slam et puis ma révérence, voici un avis personnel inculqué dans ma plus tendre enfance. Plus exigeant que l'exigence. On peut conserver ses croyances intimes, intérieures, en silence. C'est du moins ce que modestement je pense pour favoriser la non-violence. Un jour, un illustre inconnu a écrit, je me souviens, c'était un dimanche ou un vendredi, peut-être un samedi, « Être ou ne pas être, telle est la question. » S'agissait-il d'une interrogation relevant de la religion? Ceci, jamais nous ne le saurons. Alors je vous livre ici, ce sera donc un jeudi, ma propre version. Croire ou ne pas croire, là n'est pas la question. Libre à chacun de voir, et tout est question de droit et de devoir. La laïcité peut offrir l'excellence qui peut naître de nos différences. Tous ici connaissons, pratiquons la communication, échanger, s'épauler, se former et envisager la cohésion. Mesdames, Messieurs, auditeurs de O2, je vais bientôt arrêter et revenir sur mon petit cahier, continuer à me former, à noter tous les aspects, la complexité, mais surtout les bienfaits de la laïcité, ce beau concept à partager, à préserver et à protéger. La laïcité peut sembler parfois compliquée et souvent mal comprise, mais bien expliquée, démystifiée, elle ne sera que mieux transmise, car l'enjeu majeur est de nous définir par notre citoyenneté et en aucun cas par notre croyance ou notre religiosité. Alors, est-ce que je crois au paradis ? C'est perso, je ne le dirai pas ici. J'en ai le droit, mais c'est mon choix et surtout mon intimité. C'est ma liberté. Belle journée à tous.
Bravo, bravo. Merci beaucoup. Voilà, donc là, c'est difficile de rebondir après, tellement on est pris. Donc là, on va déborder un petit peu, bien sûr, parce qu'il y aurait tellement d'autres choses à dire. On ne va pas pouvoir tout dire. Mais je pense qu'il faudra s'organiser d'autres temps. Mais c'est même pas, je crois, j'en suis sûr. On va rappeler donc cette journée de mardi qui n'est pas ouverte au public. Hein, ça, c'est bien de le rappeler. Je ne sais pas si vous voulez, par rapport à cette journée, compléter. Ludo, c'est tout un programme. L'équipe de Doradio sera mobilisée, donc on va ramener bien sûr le reportage. Mais on va se croiser, ça avec plaisir, qui plus est.
Oui, donc c'est une journée qui va être ouverte par Monsieur le maire de ce nom.
Jean-François Aigron.
Donc Monsieur Jean-François Aigron. Effectivement, la préfète déléguée à l'égalité des chances sera également des nôtres, la rectrice d'académie également. Donc nous avons les institutionnels qui portent avec les associations et avec les élèves donc cette belle journée, cette journée que nous voulons belle et cette journée que nous voulons pédagogique en même temps.
Alors quelques mots, hein, parce que là, je fais un petit coucou à Christelle qui m'a remis ce bel article. On aurait tellement de choses à dire, hein, j'insiste là-dessus. Mais elle me dit, il faut que tu parles à l'association Thésée, donc, qui a décroché le prix de l'initiative laïque. Ça également, c'est le fruit de tout votre travail. C'en est un exemple parmi d'autres.
Oui, donc, c'est le fruit d'un engagement collectif avec mes deux amis ici présents, avec Marion Pommier, donc, qui est à l'association et qui est un petit peu la cheville ouvrière que je salue. C'est une candidature que j'ai déposée aux journées, au rendez-vous de l'histoire de Blois, qui est une institution, semble-t-il, depuis 27 ans. C'est une institution qui gravite autour du monde de l'éducation, avec des professeurs d'université, des professeurs de lycée, de collège, etc. Et depuis 20 ans, au sein de ces rencontres pédagogiques, ils ont mis en place avec la CASDEN, Banque Populaire, avec la MGEN et avec la MAIF, donc ce prix de l'initiative laïque pour lequel, effectivement, j'ai eu la chance d'être à l'unanimité primé. L'action consiste en l'écriture de supports pédagogiques pour les classes primaires, pour les classes de collège et pour les lycées, à travers notamment, c'est surtout le support des classes élémentaires qui a beaucoup plu. Le support s'appelle, l'histoire s'appelle « Dis papy, s'il te plaît, raconte-moi la laïcité ». Donc je raconte la laïcité à ma petite fille qui elle-même traduit avec ses propres mots pour que ça soit compréhensible par ses pairs, c'est-à-dire les enfants de son âge.
Voilà, on va pas pouvoir développer malheureusement, mais il va falloir s'organiser.
On reviendra.
Après, je sais que vous êtes très très actif avec l'association, mais pas que. Ludovic, vraiment merci. On va se croiser donc ce mardi 10 décembre avec toute l'équipe de O2 Radio. Voilà, notamment nos stagiaires, futurs journalistes. Dominique, un dernier mot aussi. Vous serez présent, bien sûr, hein, avec l'association Thésée.
Oui, absolument, parce que nous, c'est cet engagement sur la laïcité. C'est quand même notre journée, la journée de la laïcité.
C'est à nous.
Et puis voilà, et le plaisir de rencontrer ces jeunes, quoi, parce que ben, voilà, c'est l'avenir et c'est eux qui porteront ensuite les valeurs de la République. Donc on est avec eux aussi, avec grand plaisir.
Eric, donc capitaine Slam, donc il y aura d'autres occasions. Là, vous avez déclamé un texte qui est plus en direct. Je présume qu'il y en a d'autres, hein.
Oui, il y en a d'autres. Et pour revenir sur la journée du 10,
mardi, oui.
J'y serai bien évidemment avec mes amis en particulier. puisque ce thème me tient à cœur aussi. Mais ce n'est pas qu'une journée, la laïcité. Hein. C'est un jour où on fête un anniversaire, mais ça doit être tous les jours de l'année. Et les années qui se suivent, et donc avec les jeunes et les encadrés.
Voilà, voilà, mais c'est important d'avoir comme cela des focus. En tout cas, merci à tous les trois, hein, Ludovic, Dominique et Eric. On va se recroiser, puis voilà, il y aura d'autres temps parce que les projets, il y en a en cours, il y en a pour l'année prochaine. Hein. Enfin voilà, merci pour votre implication, et puis voilà, vous en parlez tellement bien, et ça se fait dans la bonne humeur. Hein. Ce sont pas toujours des sujets simples à traiter, mais voilà, c'est bien d'avoir cet enthousiasme-là. Donc un grand merci. Allez, petite pause musicale, petite pause façon de parler, bien sûr. Émilie Loiseau avant son concert de ce jeudi au Rocher de Palmer à AKM en ouverture de soirée. Je sais qu'il y aura également des associations comme SOS Méditerranée qui seront présentes. Donc il y aura le concert, mais là également hein, des artistes engagés. Allez, je vais pas en dire plus pour pas trop déborder parce que magazine culturel. Voilà, on a un autre plateau qui va s'organiser pour parler du spectacle de demain, donc ici à l'Oscillo Théâtroscope. Allez, Émilie Loiseau, La Route de Vénus, avant son concert de ce jeudi soir, 20h30, à la salle 650 du Rocher de Palmer à ce nom. Voilà, le temps de raccompagner nos invités de la partie journal et d'avoir écouté ce titre d'Émilie Loiseau. Donc, ils seront en concert ce jeudi soir au Rocher de Palmer à la salle 650. Voilà, on va accueillir comme il se doit Claire et Laura.
Bonjour.
Je suis bon pour les prénoms.
Oui, tout à fait.
Voilà, bonjour et bienvenue. Alors, j'ai présenté en préambule, donc vous êtes toutes deux autrices et comédiennes. Voilà, et puis vous étiez en résidence à l'Oscillo Théâtroscope, géré par le Théâtralisé. C'est bien cela ?
On l'est toujours, on est encore en résidence aujourd'hui même.
C'est ce qui permet de vous avoir en plateau
voilà,
aujourd'hui.
Voilà, on est juste à côté.
Voilà, le spectacle aura lieu demain. Alors peut-être, avant de parler de recherche autour de Lilith, c'est bien aussi de dire quelques mots sur ce travail de résidence. Voilà, parce qu'on ne connaît pas toujours tous les rouages. Mais voilà, un spectacle, ça se prépare, ça se travaille, ça s'écrit. Et d'avoir comme cela un bel écrin en guise de résidence, c'est sympa. Mais peut-être quelques mots sur la compagnie, donc Tout Fout le Camp.
Oui, c'est une compagnie qui est dirigée dans trois disciplines, notamment le théâtre, la musique et la marionnette. C'est vraiment les trois pans qu'on a le plus depuis quelques années. C'est une compagnie qui est toute jeune, puisqu'on a 4 ans. On développe vraiment nos projets depuis 2 ans. Mais c'est une compagnie qui est pluridisciplinaire et qui aussi a des gens de tous horizons. On est une douzaine d'artistes donc dans ces différentes disciplines. Et on monte des spectacles, on écrit, on compose, on produit. Et aujourd'hui, là, nous, on propose dans cette résidence de travailler sur la légende de Lilith, notamment.
Alors justement, parmi les spectacles, hein, je ne sais pas si le terme, parce qu'il y a du jargon, hein, selon le mot spectacle, ça vous va ? Des fois, on me dit dans le théâtre, il y a
pièce. Alors nous, c'est ici,
je
là,
c'est personne. Une...
non, c'est du spectacle vivant, bon. Ça c'est sûr. Nous, c'est une création originale, théâtrale et musicale. Parce que la production, c'est-à-dire que nous, c'est une écriture qu'on fait, qu'on est encore en train d'écrire, hein, d'ailleurs. Et on a toute une production musicale qui est faite aussi par Rotnik Aimon, d'ailleurs, qui lui travaille avec nous sur le projet.
Alors, quand je reprends les flyers l'équipe du Théâtralisé, vous avez déjà joué ce spectacle vivant le 1er novembre. Et là, vous êtes à nouveau en création, en résidence
Tout à fait, on y est encore. On est au cœur de la création. Le spectacle n'est pas encore
malgré
finalisé.
Après, je pose des questions, je suis un néophyte. Hein.
Oui.
Là, vous êtes présenté quand même le 1er novembre et on continue à écrire.
On continue. Là, on est vraiment dans une partie d'écriture de plateau. C'est-à-dire qu'on teste nos écritures. Alors, c'était combien ? Le 1er novembre, on a joué au Théâtralisé. Une partie du spectacle, qui n'est pas la globalité du spectacle, c'était le premier acte et le début du deuxième acte. Et là, cette fois-ci, on présente le premier acte et le deuxième acte entier. Et on n'a plus qu'à écrire le troisième acte. Et après, trouver de la cohérence dans ces trois parties et voir si on réduit, si on remodèle, si ça nous convient dans sa forme, dans sa durée, et s'il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on présente le projet au public.
Et quand vous dites-on, parce que là vous êtes toutes les deux aujourd'hui, Claire, Laura, quand vous êtes en création, il y a d'autres membres de la compagnie ou du Théâtralisé, ou comme vous êtes toutes deux à la fois comédienne, autrice sur la mise en scène, etc., c'est vous comme je sais que du coup, vous êtes nombreux ou peut-être nombreuses, hein, je ne sais pas si il y a une mixité, mais là quand vous êtes en résidence, il y a d'autres regards pour vous accompagner, même
alors,
si vous avez toutes les compétences.
Alors ça dépend des fois. Après là on est deux comédiennes, écrivaines, donc on est vraiment les deux au cœur du projet. Après, on a quand même Erwan Menret, qui est un marionnettiste, qui a fait l'école internationale de Charleville-Mézières.
Excusez du peu.
Oui, voilà. Qui est quand même...
Non, c'est une référence, oui, tout à fait.
Oui, quand même,
ça, c'est des expressions toutes faites. Mais...
Je ne connais pas du tout cette expression.
Si, c'est... Quand on dit excusez du peu, c'est quand, voilà, quand on a cet éloquent. Mais ce n'est pas le plus important. Hein. Voilà, pardon, vous avez quoi
de vous avoir coupé du coup. Mais du coup, ce marionnettiste, lui, a construit pour nous... on a construit ensemble plusieurs marionnettes pour une partie de cet acte 2, une réunion qu'il y a entre hommes notamment. Et donc on a voilà, ce constructeur, mais c'est quand même des mains qui sont extérieures au projet, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas à l'écriture, ils ne touchent pas à la création globale, mais ils viennent apporter leurs pattes et leur art, hein, vu qu'on est pluridisciplinaire encore une fois. Et après on a d'autres disciplines, hein, comme de la danse, de la pole dance, du jonglage, du bâton. Si j'en oublie pas, je pense que c'est à peu près les...
Voilà, puis après, si je posais la question, c'est parce qu'on peut avoir toutes les compétences, même de mise en scène, mais des fois, c'est bien d'avoir...
C'est le cas ici.
Chacun travaille, bien sûr, à sa manière. Donc là, vous êtes aujourd'hui et demain sur la résidence, ou vous étiez, c'est pas pour être curieux dans la absolu, mais c'est pour montrer voilà, en amont tous les rouages, que c'est du travail, c'est de la passion, certes, mais voilà, on ne connaît pas toujours, bien sûr. Après, on se doute que les musiciens, je suis musicien amateur, on répète, etc. Là, la résidence de création, là, c'est 2-3 jours plus.
Là, pour cette fois, c'est une résidence qui est très très courte, puisqu'on a fait, on ne fait que seulement 3 jours. On a fait mardi, jeudi et vendredi. Néanmoins, hors plateau, on travaille encore, hein, tous les jours qui sont entre ces jours-là.
Et puis, dès qu'une idée peut arriver, je présume quand,
voilà,
quand on écrit, je ne sais pas si vous avez une méthodologie, dès qu'il y a, dès qu'on pense qu'il peut y avoir une phrase, un mot qu'on pourrait travailler ensemble, on note ou...
Je pense que chacune d'entre nous a une méthode différente pour aborder la pièce. La création, elle a commencé par d'abord une grosse recherche bibliographique qui a été faite sur cette légende et sur Lilith. Et donc, on a passé quand même 2-3 semaines à vraiment creuser cette histoire, essayer d'aller voir qu'est-ce que ça convoque en nous, qu'est-ce que ça questionne, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment, pourquoi elle nous a bouleversés au point de vouloir la mettre en scène. Et ensuite, la phase d'écriture, elle arrive dans un premier jet de tout ce qui ressort de nous, en fait. Tout ce qui nous chamboule, tout ce qui viendrait, en fait, être intéressant à partager. Et après cette période bibliographique de recherche, on est parti sur un premier jet, des premières écritures qui nous venaient. Et après, avec ces écritures, on a commencé à essayer de concevoir un monde dans lequel on pourrait développer ses idées pour qu'il y ait une cohérence, en fait, dans nos pensées. Et surtout, ce qui était intéressant pour nous, parce que c'est ce qu'on aime aussi dans la création, c'était comment on pouvait, nous, insuffler toutes les pratiques qu'on aime aussi, nous, en tant que femmes, notamment Laura, sa pratique de la danse, qui a un rapport au corps qui est beaucoup plus pointu, qui est beaucoup plus précis. Moi, qui aime le jonglage, qui ai fait du tourlé-bâton pendant plus de 6 ans quand j'étais plus jeune, qui avait envie de reprendre, en fait, cette pratique-là. Et puis, la marionnette, parce que nos proches aussi sont comme ça, et la production musicale est venue aussi dans tout ça. Donc, il y a vraiment, au fur et à mesure, parce que ça fait quand même cette création, on l'a pensée il y a plus de 2 ans. Donc, il y a plus de 2 ans, on s'est lancé sur l'idée de créer ce spectacle. Et ensuite, bon, il y a eu tout aussi une recherche de partenaires, pour essayer de voir comment on pouvait trouver des lieux pour nous accueillir, et notamment le théâtraliser. Et quand on a trouvé, en fait, ces lieux, on a vraiment commencé à plonger dans nos premières écritures et à essayer de voir au plateau comment ça réagissait. Donc là, on en est là aujourd'hui.
Oui, et puis c'est intéressant d'entendre justement la genèse et les différentes étapes. Alors, recherche autour de Lilith. Alors, bon, j'ai quelques, bien sûr, outils de communication avec ces questions, hein, qui sont mises en avant. Qui est cette femme? Quel regard posons-nous sur elle? Ce sont des questions que vous êtes posées, vous, bien sûr, sur la phase d'écriture, parce que comme c'est sur le communiqué, on interpelle également le public, et puis un public doit avoir... plusieurs lectures. Alors, comme vous avez mis ces questions-là, c'est vraiment des réflexions. Bon, il y en a d'autres, hein, je ne vais pas toutes les citer. Retenons-nous des histoires, que ce qui nous arrange. Donc ça, c'est une réflexion également autour du...
Oui, c'est une réflexion qui n'est pas venue tout de suite.
Après, elles ne sont pas forcément posées telles quelles. Ça peut être en échange, je présume.
C'est un parcours. Bon. Je pense que nous, on a vraiment eu un parcours de réflexion. Et nous, on essaie de revenir à la première réflexion qu'on s'est posée. Celle-là, elle arrive beaucoup plus loin, notamment pour parler de la véracité, etc. Mais si je reprends juste le début pour voir aussi comment on a cheminé les choses, c'est qu'on a découvert d'abord une partie de cette légende. Et cette partie, c'était le fait que Lilith, ça aurait été la première femme d'Adam avant Ève. Et elle aurait refusé de se soumettre à Adam. Et donc, pour avoir refusé de se soumettre, donc de se mettre en dessous d'Adam, elle aurait été bannie du Jardin d'Éden. Enfin, il y a déjà plusieurs versions à cet endroit-là. C'est-à-dire que soit elle aurait été bannie, soit elle aurait été, d'elle-même, elle serait partie du Jardin d'Éden. Ce qui déjà pose déjà beaucoup de questions. Et donc, c'est une première question qui nous est arrivée, c'est pourquoi une femme qui dit non serait bannie d'un endroit paisible, serait rejeté de cette zone de paix, en fait. Et suite à ça, on s'est dit, bon, on va aller plonger plus longuement dans les histoires. Et puis, plus on a plongé dans son histoire, plus on s'est rendu compte qu'elle était controversée et qu'il y avait plein d'avis différents, plein de façons de la voir. Il y en a qui rejettent tout à fait cette idée que Lilith aurait été la première femme d'Adam. Voilà, dans certains textes, ça a été repris, etc. Puis, plus on avance, plus on se dit, mais en fait, qui détient la vérité ? Qui détient cette vérité? Et nous, on la cherche, en fait, finalement. On cherche l'origine, on cherche cette vérité. Et à force de chercher, on galère quand même. C'est une galère de trouver qu'est-ce que c'est la vérité, finalement. Qu'est-ce que c'est, qui l'a, qui l'obtient.
Et chacun peut avoir sa vérité, hein, parce qu'il y a un mythe, chacun. Là, c'est quoi vos personnages, du coup, toutes les deux, hein, sur scène?
Et eh ben du coup,
parce qu'il n'y a qu'une Lilith, je présume.
Lilith, et en fait, l'idée de ce projet, c'est que Lilith est en chacun de nous, homme ou femme. Et ce qu'on a envie de raconter, c'est pas l'histoire de Lilith, mais c'est comment Lilith nous habite et quelle place elle a dans notre imaginaire commun ou dans un imaginaire qu'on ne connaît pas forcément. Donc, on n'a pas de personnage tant défini que ça. On a plutôt des
Après, je ne veux pas spoiler aussi, hein, bien sûr. Hein. Attention. Hein. Attention, il ne faut pas trop en dire. Bon, vous avez l'habitude
bien
de bien
dire. C'est bien aussi d'en dire, parce que ça éveille la curiosité et l'imaginaire.
Pour attirer également le public, bien sûr, c'est bien d'en parler. Du coup, pardon de vous avoir coupé une fois de plus dans l'élan.
Mais du coup, voilà, en fait, c'est plutôt comment cette légende nous habite, ou non, d'ailleurs. Et ce qu'on questionne, c'est plutôt, c'est plutôt le rapport à l'interprétation d'une histoire. Comment, d'une année à l'autre, elle peut être interprétée complètement différemment en fonction de ce qui se passe aussi autour de nous, de ce qui se passe en société. Voilà. Et donc, pas de personnages réellement définis, des tranches de vie.
D'accord, en ce qui vous concerne toutes les deux. Je lis aussi, c'est tout public à partir de 14 ans. Vous l'avez déjà donc joué à minima au théâtralisé, peut-être dans, même si j'ai bien compris, sur la phase de création. Je sais que dans le théâtre, il y a souvent ce qu'on peut appeler bord de scène ou autre, un échange. Vous aimez ces échanges avec le public, parce que je veux pas parler au nom du public, parce que chacun a sa singularité, sa vision. Qu'est-ce qu'il y a eu comme échange après le spectacle?
Eh bien, on a eu plusieurs retours.
Bon, ça, c'est toujours sympa.
Voilà, c'est ça. Parce qu'on a aussi plusieurs sorties de résidence. C'est pas la première fois qu'on fait une sortie. C'est une très longue création.
Mais déjà, j'ai l'impression, voilà, quand, surtout dans le théâtre, quand on sort de scène, on a tout donné. Et là, il n'y a pas de moment de répit. Après, on aime bien aussi se nourrir des échanges du public. Mais on est encore avec toute l'adrénaline du spectacle et on arrive à échanger. Donc, qu'est-ce qu'il en est ressorti, par exemple? Je veux pas faire une analyse absolue, mais comme ça, à partir de 14 ans, il peut y avoir, bon, à 14 ans, on est adolescent, hein, je veux pas, avec ces personnes, ça peut être des adultes, peut-être qu'il y a des personnes qui viennent, ça peut être une même famille, après, bon, il y a l'équipe du théâtralisé, donc qui connaissent bien le milieu théâtral, donc il y a eu quoi, par exemple, comme impression délivrée juste après coup?
On a eu des premières impressions de ressenti. Surtout de gens qui, eux, ne connaissaient pas cette légende, la légende de Lilith, et qui ont été agréablement surpris.
Donc, il a découvert votre œuvre.
Totalement. Alors, c'est vrai que nous, on la connaît depuis quelques années, du coup, ça nous surprend
toujours.
Puis
vous l'avez retravaillé aussi. Oui, mais après, on ne peut pas tout connaître.
Mais oui, tout à fait.
On n'a pas tous une culture. Si on est sur un cursus littéraire, bon, je pense qu'on peut étudier. Après, il y a des auteurs que l'on aime ou pas.
Et puis, ça reste une légende qui est discrète. C'est une légende qui est discrète. Et
puis le mot légende
oublié,
est important pour certains. Ce n'est pas forcément une vérité absolue dès qu'on parle de légende.
Oui, tout à fait.
Donc vous avez un petit peu différents retours de certains qui ne connaissaient pas.
Oui, de certains qui ne connaissaient pas.
Certains qui connaissaient par un angle, je ne sais pas. Parce que...
Je pense qu'il y a certaines personnes qui connaissaient. Je n'ai pas eu de retour de public de gens qui la connaissaient vraiment. Mais pour ceux qui ne la connaissaient pas, ça a été une surprise.
J'espère, et agréable.
Une belle surprise, notamment. Moi, j'ai eu principalement des retours de femmes. Mais une belle surprise et ça a amené aussi des réflexions. Je pense que Lilith, elle crée pour les femmes notamment, parce que j'ai pas forcément de retour d'homme là-dessus, mais elle crée une forme de jouissance, c'est-à-dire qu'il y a un vrai plaisir à découvrir cette légende. Il y a quelque chose dans cette légende qui nous donne envie de reprendre le pouvoir, notre pouvoir intérieur, hein, le pouvoir sur notre corps, le pouvoir sur le fait de pouvoir dire non, de s'exprimer librement.
Et ça,
là-dessus.
Ce sont des sujets d'actualité. Hein.
Beau, très d'actualité.
Voilà, là, on sort de la quinzaine de l'égalité. Il y a eu la journée du 25 novembre. Pour vous, c'est un spectacle engagé?
Oui, totalement.
Bon, ça, au travers de vos propos, je m'en doutais, mais c'est bien de... Oui, allez-y, pardon.
Il y a vraiment une chose que j'aimerais dire à ce sujet, et parce que pour avoir eu des retours de femmes et des retours d'hommes, c'est un spectacle qui parle de féminité, qui ne parle pas qu'aux femmes, qui parle aussi aux hommes, et surtout aux hommes, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, avec forcément des choses difficiles, parce que le mythe de Lilith est quelque chose quand même qui parle du chaos, qui parle de perte, de noir, c'est la lune noire en astrologie. Donc il y a vraiment quelque chose où je voudrais que les gens qui voient les affiches, qui voient le flyer passer, comprennent que c'est un spectacle pour tous et toutes.
Oui, c'est pour ça que je citais, parce que c'est important, hein, j'en parle souvent avec des compagnies, voilà, on met pas, c'est bien d'avoir, je ne sais pas si on appelle ça code Peggy dans ce cas-là, je sais que dans notre champ, il y a ce fameux code, parce que quand on écrit, là par exemple, le prochain spectacle, ou l'un des spectacles, c'était à partir de 16 ans, ou quand vous mettez à partir de 14 ans, c'est quoi, c'est une réflexion entre vous, il y a peut-être, je ne sais pas, une législation, je ne sais pas. Je connais pas, mais là, je n'ai pas fini la question, ouais. J'ai vu que vous me répondez. Bah, c'est important d'avoir, par rapport à l'âge, alors des fois c'est l'interdiction, des fois c'est en recommande.
C'est surtout une histoire de compréhension. C'est bon. Vraiment une histoire de réflexion aussi. C'est-à-dire que bon, dans l'écriture, dans ce qu'on amène, il y a quand même des références, ça demande d'avoir un peu étudié certaines choses. Et en dessous de 14 ans, c'est inapproprié parce que...
Mais c'est pas interdit, quoi, dans l'absolu.
C'est interdit quand même parce qu'on...
Ah d'accord. Non, mais c'est important.
On montre des choses, notamment nos marionnettes, elles sont assez vulgarisées. C'est, on met en avant une réunion de plusieurs hommes qu'on caricature, notamment on caricature des masculinistes. Mais ces hommes-là, voilà, ils sont un peu vulgarisés, notamment ils ont des nez... provoquant
en phallus,
voilà, en phallus, en sexe d'homme. Et donc,
à la radio, faut des images.
En dessous de 14 ans, on n'a pas forcément envie de montrer ce genre de choses aux plus jeunes.
Sauf si on s'y prépare, parce que dans le champ culturel, et c'est tant mieux. Après, pareil, je suis pas un spécialiste de tout, mais il y a beaucoup de médiation culturelle. Et c'est important, ça permet de préparer, dans le bon sens du terme, bien sûr, un spectacle et autres. Mais bon, là, je comprends mieux, parce que le but, c'est quand même d'un spectacle, même si ça peut interpeller, c'est de passer un bon moment néanmoins. Mais vous avez eu des jeunes quand même au contact qui vous disent, bon, après, ça peut choquer, pas forcément un jeune, moins jeune. Et en fait, pareil, c'est fait pour interpeller, pour questionner. Donc voilà, je l'ai vu dans d'autres cadres où... On disait que c'était important des fois de provoquer pour qu'il y ait un débat qui s'instaure. Mais, donc là, est-ce que vous avez eu des anecdotes ou de on n'ose pas toujours aussi dire, hein, parce qu'on peut aller au spectacle et puis garder en son fort intérieur ses impressions. Hein. Je ne pense pas que tout chaque membre du public échange, mais pour vous, je pense que ça doit être important d'avoir... c'est du spectacle vivant, c'est l'échange, d'avoir quelques impressions après coup. Parce qu'en général, notre proche sphère, elle va toujours être bienveillante. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir des mauvais échanges. Mais là, vous en avez eu des jeunes qui pouvaient dire « Oh là là, j'ai apprécié, mais bon... »
On a eu des tout-petits qui sont venus voir le spectacle, mais qui étaient déjà habitués à aller voir des spectacles, en fait. Donc 14 ans, c'est 14 ans si tu n'es jamais allé au théâtre, en fait.
Bon.
Parce qu'en dessous de 14 ans, si tu ne connais pas trop les codes... Parce qu'effectivement, les images sont fortes et vraiment, il y a des choses qui peuvent être, au-delà d'interpellantes, qui peuvent être choquantes. Et nous, notre objectif, c'est d'interpeller et d'engager la conversation, bien sûr.
Il peut y avoir un débat, chacun avec ses idées, ses convictions.
C'est ça, de questionner l'esprit critique, mais pas de créer des traumas, sans aller jusque-là. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir de main. Et il y a volontairement des images qui sont très fortes.
Et très violentes.
Et assez violentes. Donc c'est plus un 14 ans préventif.
Bon.
Mais ça surtout dans une forme d'investissement de jeu et corporel qui, par moment, est vraiment puissant et peut vraiment effrayer dans sa forme, surtout quand on est plus petit. Je pense qu'après 10 ans, on commence à être plus habitué. Mais par exemple, il y a un petit garçon qui est venu. On n'avait pas encore travaillé cette histoire de réunion avec l'aîné en phallus, etc. mais qui est venu voir le début. On l'a quand même briefé un petit peu.
Oui, on l'a préparé.
En lui expliquant que voilà, il y a eu des moments où ça va crier très fort, mais il n'y a pas de douleur. En lui expliquant qu'est-ce que c'est le jeu finalement. Que nous, en tant que comédiens, on joue, on simule des réalités, mais ces réalités, au moment où elles sont vécues, sont fictives.
Puis il y a toute la scénographie, vous êtes sur scène bien sûr, donc voilà, il y a tous les rouages aussi d'amplifier, je présume qu'il y a des nuances dans, en dehors de toutes les expressions. Voilà, mais c'est pas bon à me focaliser, mais je vois que ça amène de
Et je pense que c'est important d'en parler dans le sens où la violence qui est faite sur scène, elle est vraiment perceptible pour les jeunes. Moi je travaille sur un projet qui s'appelle On répète Andromaque, où il y a une scène d'agression. Et cette scène d'agression qui est pas poussée, mais juste avec une femme qui se fait tirer les cheveux, c'est une scène qui a choqué certains collégiens. Voilà, qui se sont retrouvés à s'agiter,
après,
en fait, à ne pas comprendre.
Dans le bon sens du terme, parce que c'est vrai que là, on ne va pas ouvrir tous les débats, il va nous rester quelques minutes, mais c'est vrai que souvent, quand on parle de violence faite aux femmes, ça part des fois pour des petits gestes que certains banalisent.
Mm-hmm, oui.
C'est pour ça qu'on peut être choqué, même le choc, ça peut être une émotion large, si ça permet de dire ben, rien que tirer les cheveux, d'avoir des petits mots qui ne sont pas toujours très sympas, c'est ce qui amène plus tard, hein, pas toujours. Voilà, je ne suis pas une fois de plus un spécialiste, mais c'est vrai qu'on a tendance à trop banaliser.
Ouais.
Et là, c'est important du coup de pouvoir faire la médiation. Vous en faites aussi, du coup, en tant que comédienne, de pouvoir expliquer certaines scènes dont vous me parlez.
Tout à fait, oui. Bah, c'est aussi à ça que servent les bords plateaux, notamment quand on travaille avec des plus jeunes, des collégiens, etc. Le bord plateau, soit avant, il y a une médiation, soit après, on peut expliquer ces scènes-là. Et revenir dessus et surtout voir avec les jeunes comment ça les a bouleversés, surtout échanger avec eux pour qu'ils puissent poser leurs questions et étudier avec nous la situation.
Oui, puis ça c'est tout l'éveil de la citoyenneté aussi, d'avoir l'esprit critique, etc. Là il va nous rester quelques minutes, on va rappeler bien sûr, on va repartager sur les réseaux sociaux, donc recherche autour de Lilith demain soir, et puis là la radio on ne peut pas manquer, hein, vous avez vu,
oui.
On a une belle affiche.
Merci beaucoup.
Donc il y aura, je présume, d'autres représentations de ce spectacle, et puis comme avec la compagnie vous en avez d'autres, comment on peut suivre l'actu, je présume réseaux sociaux?
Oui, voilà, tout à fait. Bon. En cherchant sur la compagnie Tout Full Camp, et c'est compagnie Tout, T-O-U-T, plus loin, F-O-U-L-K-A-N, Full Camp. Et effectivement, il y a notre actualité qui arrive. Cette année, on a plusieurs sorties de résidence et on espère vraiment finaliser le projet courant en 2025 pour avoir une vraie sortie du projet finie.
Là, vous parlez de recherche autour de Lilith.
De recherche autour de Lilith, oui.
Pas forcément des autres spectacles.
Non, pas
chacun
forcément.
Peut-être une...
Chacun a son actualité.
Sur la temporalité.
Voilà, la temporalité, elle est vraiment diverse en fonction des projets. Mais il y a des projets qui sortent très vite, il y a des projets qui mettent des années à sortir.
Vous nous suivez sur les réseaux Facebook, Instagram, site internet.
Voilà.
Bon, voilà, en même temps, en 2024, si on n'est pas sur les réseaux, après chacun
ouais.
gère
mais
comme
veut. Enfin, nous, personnellement, avec la compagnie, on n'est pas très bon en communication pour le moment. Alors, on n'a pas une équipe qui le permet, mais à l'avenir, on espère avoir... une équipe qui se concentrera sur ce genre de choses.
C'est du boulot, c'est du temps.
C'est du boulot.
Je présume que, question d'investissement, je pense que...
On en fait beaucoup.
Vous devez... Alors, juste quelques mots sur les théâtralisés, ce sont nos voisins, hein, donc on les adore. Alors, c'est vrai que c'est un théâtre de poche, 49 places, mais une belle équipe. Pour vous, c'est confortable, entre guillemets, d'avoir un bel écran, puis une équipe accueillante. Il y en a d'autres lieux, bien sûr, mais c'est important d'avoir ces connexions-là.
C'est très important.
Parce que quand on prépare, on a envie d'avoir, pas dans un cocon, mais presque néanmoins.
Mm-hmm. Ouais, c'est un super théâtre. Et du
attention,
coup,
ils nous écoutent.
Mais je fais très attention parce que du coup,
non, mais
moi, je travaille là-bas. Donc, c'est mes patrons, dans un sens. Je vais que dire du bien d'eux.
Non, mais je rigole. Voilà, on se croise là tout à l'heure. C'est ce que je disais juste avec le changement de plateau. On va se recroiser mardi où le théâtralisé sera sur cette journée de laïcité, donc on connaît qui plus est l'engagement, donc du coup vous connaissez bien le lieu.
Oui, et encore merci de nous accueillir en résidence dans ce super super petit théâtre, c'est génial. Et je profite pour faire ma pub. Le lundi matin, je donne des cours de pilates et de danse. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, nombreuses.
Donc toujours
au théâtralisé.
Très bien, parce que c'est bien de montrer toute cette diversité-là. Oui, oui. Enfin, c'est vrai que c'est un lieu de diffusion, mais des fois il y a des séances scolaires et puis il y a d'autres animations. Donc c'est
des
bien.
Des stages, des locaux.
Voilà.
Et je tiens à aussi remercier le théâtralisé, parce que ce qu'il faut savoir avec le théâtralisé, c'est aussi que nous, on est une jeune compagnie et il n'est pas évident pour nous de trouver des lieux d'accueil qui puissent nous prendre, voilà, nous mettre une
mise à disposition,
etc. Oui, bah, heureusement qu'on a ce lien.
Bon.
Mais le théâtralisé, aujourd'hui, nous permet quand même de développer nos projets à notre échelle, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de lieux. Donc voilà, je pense que le théâtralisé porte beaucoup de projets à l'année, de compagnies diverses. Et pour nous, en tant que jeunes artistes, qui débutons, qui lançons nos premières écritures, nos premiers jets dans notre carrière, c'est ce soutien, il est primordial et il est important. Et voilà, encore merci à eux.
Bah, c'est là que je voulais en venir, bien sûr. On ne voit pas toujours, hein. C'est vrai que là, on voit la magnifique affiche, les spectacles. Donc c'est une belle programmation,
oui,
diverses et variées. Mais voilà, entre les stages et tout ce qu'on t'en a dit, c'est bien d'en parler. En tout cas, merci à toutes les deux.
Merci à vous.
Laura, Claire, merci. Puis toute l'équipe. Au sein de la compagnie Toufoucan et du Théâtralisé. Merci beaucoup. Puis on va repartager sur les réseaux l'événement de demain soir, recherche autour de Lilith ici à l'Ocilio Théâtroscope.
Merci, voilà, qui venez nombreux nous voir.
Ça, c'est de la com. Allez, merci en tout cas. Merci à Lily et non pas Lilith à la régie technique.
Merci,
voilà, on vous
salut,
laisse.
Lily.
Et oui, ça crée des connexions. Allez, on vous laisse avec les autres programmes d'Odo Radio, Odo Radio, la radio de Haute-Garonne.
Votre radio locale adhère à la FRANA. La Fédération des radios associatives de Nouvelle-Aquitaine accompagne ces radios dans le développement de leurs projets, les formations ou encore la défense de leurs intérêts communs. C'est aussi une plateforme d'échange d'informations locales. Vous souhaitez communiquer à l'échelle du territoire? La FRANA peut vous proposer un plan de communication. Retrouvez la FRANA sur frana.fr, par mail à franaquitaine@gmail.com ou contactez votre radio.
La région Nouvelle-Aquitaine s'engage contre les violences faites aux femmes. Que vous soyez victime ou témoin, dites non. Ensemble, osons agir. Appelez le 3919. 3919.